cet épître. Mais plusieurs points à considérer, et pour moi, après considération, je ne crois pas que ce soit l'apôtre Paul qui ait écrit cet épître, surtout que Paul n'était pas désigné comme un apôtre pour les Juifs. Et cet épître est écrit aux Hébreux. Et deuxièmement, quand on compare la manière que Paul ouvre ses autres épîtres, en écrivant, il donne toujours son nom. C'est parce que les parchements étaient sur des rouleaux. Et donc, en ouvrant pour lire, c'était nécessaire de comprendre dès le début. Ce n'était pas nécessaire comme nous. Nous écrivons une lettre et puis nous signons à la fin. Paul fait ça au début pour que les gens, en ouvrant ces parchements, pouvaient facilement voir que c'était lui qui a écrit ces épîtres. Mais ici, il n'y a pas d'auteur qui est mentionné. Nous savons qui est principalement l'auteur des Écritures, et c'est l'Esprit lui-même. Mais en ce qui concerne l'auteur humain, que Dieu aurait utilisé pour écrire cette épître, cela reste inconnu. Néanmoins, cela ne doit pas mettre en doute l'inspiration de cette épître par l'Esprit Saint. Peu importe qui était l'auteur humain des Hébreux, il y a des indications ici à travers cette épître que ça a été écrit un peu tôt dans la période du Nouveau Testament que nous appelons dans le premier siècle. Certains pensent que ça devait être écrit dans les années 67 ou bien 69 après Jésus-Christ. Il y a une référence à Timothée dans Hébreux chapitre 13 et le verset 23. Et c'est pour cela que d'autres imaginent que c'était donc Paul, vu sa relation avec Timothée, qui aurait dû écrire cet épître. Mais je trouve aussi, même dans cela, dans le verset 23 d'Hébreux 13, sachez que notre frère Timothée a été relâché. Donc c'est évident qu'il écrit certainement depuis Rome, et que Timothée était pendant un certain temps emprisonné à Rome. Mais je note que souvent quand Paul parlait de Timothée, il parlait de lui comme son fils spirituel, bien sûr. Mais ici, le mot est utilisé, notre frère Timothée a été relâché. Et s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Donc, ici, c'est quelqu'un qui devait bien connaître Timothée, et cela pouvait être beaucoup de gens, puisque Timothée était aussi bien connu à l'époque. Mais on ne voit pas mentionné encore ici, surtout dans Hébreux chapitre 12 et le verset 4, que il parle là de la persécution lorsqu'il dit Hébreux 12, le verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. À cette époque, surtout dans le premier siècle, la grande persécution contre les croyants du jour a commencé après la chute ou bien la destruction de Jérusalem et la destruction du temple qui a eu lieu dans les années, dans l'année 70 du premier siècle mais ici, il y a une indication que cette persécution n'avait pas encore réellement débuté. Lorsqu'il dit « vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » À partir de l'année 70 jusqu'à la fin du premier siècle, il y avait une grande persécution contre l'Église par Rome, qui n'était pas jusque-là aussi sévère. Alors ça nous aide à placer un peu le temps de cette épître, mais c'est sûr que c'est écrit surtout à l'avantage des Juifs, principalement ceux qui étaient appelés à Christ par la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que donc il n'y a pas de message là-dedans pour nous, mais nous savons que ceux qui devaient recevoir cette épître étaient principalement ceux qui étaient de l'origine juive et que le Seigneur, dans sa grâce, a attiré à lui pour faire part de son Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Cela doit nous encourager parce que nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est Jean dans son épître qui nous décrit dans le premier chapitre qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Quand il dit ça, les siens, il est en train de parler là des Juifs qui auraient dû être déjà prêts à le recevoir vu le fait qu'ils avaient les Écritures qui annonçaient sa venue, mais étaient endurcis à cette époque. Et cela n'a pas empêché le Seigneur de faire son œuvre. Et c'est là qu'il doit nous encourager. Parce que nous savons que nous sommes tous comme ceux qui ne l'ont point reçu. Nous avons un cœur dépravé. Et si nous l'avons reçu, c'est seulement la grâce de Dieu. Dans Jean 1, et le chapitre 1, le verset 11 et 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Voilà la phrase qui doit nous encourager, que peu importe ceux qui n'ont pas reçu, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et Dieu les ayant laissés à leur sens réprouver, néanmoins, il y en a qui l'ont reçu. Et lorsque nous lisons, par exemple, cette épître aux Hébreux, voilà l'évidence. Il y avait ceux que, par la grâce de Dieu, il avait choisis et ne les a pas laissés dans leur endurcissement et les a attirés au Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament qui sont adressés principalement aux Juifs, mais pas aux Juifs en général, mais à ceux qui étaient élus en Jésus-Christ. Et au moment que Dieu lui-même l'a ordonné, les a attirés par son esprit à travers l'Évangile. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous décourager. Mais plusieurs épîtres ont comme participants, auditoires, des Juifs. Par exemple, cette épître aux Hébreux, mais il y en a aussi Jacques, l'épître de Jacques, 1 et 2 Pierre, les trois épîtres de Jean et Jude. Principalement, ces épîtres étaient écrites pour l'encouragement de ces Juifs à l'époque, qui sont aussi dans Jean 1, 12, indiqué là, à ceux qui croient en son nom. Donc, il ne faut pas que nous pensions que cette épître aux Hébreux est simplement une histoire racontée concernant les Juifs et concernant leur attachement au sacrifice et une explication de leur manière d'adorer à l'époque. Non. Il s'agit ici de ceux qui ont cru en son nom. Mais pourquoi ils ont cru? Toujours dans Jean 1 et le verset 12, nous notons, elle a donné, c'est-à-dire la parole qui est Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors quel encouragement pour nous du fait que, voilà, toute une épître ici, écrite aux Hébreux, à ceux qui étaient inculqués dans les traditions juives, et même qui étaient, surtout leurs parents, les premiers à recevoir la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, mais que beaucoup, dans leur endurcissement, n'ont pas vu Christ dans ses écrits. Voilà celui qui écrit maintenant cette épître aux Hébreux a pour but de leur montrer que, en fait, tout ce qu'ils avaient appris dès leur jeunesse dans l'Ancien Testament avait un seul but. Et ça nous montre la manière alors que nous devons lire nous-mêmes les Écritures, surtout l'Ancien Testament, en vue de voir comment à travers ces écrits, Christ est révélé. Donc, ce n'est pas que Dieu avait plusieurs messages et plusieurs manières de traiter. Non, dès le début, le but de ces écrits, le but même d'avoir suscité cette nation juive était qu'à travers cette nation, le Christ, le Fils de Dieu, vienne et qu'il accomplisse le salut non seulement des Juifs, mais pour tous ceux que Dieu a élus par sa grâce. Alors, en lisant cette épître aux Hébreux, nous allons voir beaucoup de comparaisons, surtout avec les parties de l'Ancien Testament qui concernaient les sacrifices, les sacrificateurs et les lois. Tout cela, l'auteur ici aux Hébreux est en train de démontrer que c'est Christ qui était en vue à travers tout cela, dans les prophéties et dans les promesses, c'est Christ qui est en vue. Donc revenons dans notre texte ici dans Hébreux chapitre 1, ce que l'écrivain est en train de souligner ici, encore, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige ce qui est écrit, pour que, à la fin, nous avons ici la parole inspirée de Dieu. Que, après avoir autrefois à plusieurs manières, ou plusieurs reprises et de plusieurs manières, ce n'est pas en train de dire qu'il y avait plusieurs messages pour Dieu de se révéler, mais en lisant l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des parties de l'Ancien où la révélation donnée par les prophètes a été apportée de diverses façons, parfois par des paraboles, parfois à travers des récits historiques, souvent par une confrontation prophétique lorsque Dieu donnait ce message aux prophètes, et parfois par une présentation dramatique où, comme le prophète Isaïe, le Seigneur se met à nu devant le peuple et les psaumes, les proverbes, etc. Voilà le sens du verset 1 que nous avons ici, qu'il utilisait comme un bon maître utilise en enseignant sa classe, comment il utilise plusieurs manières de faire comprendre une leçon. Et c'est de cette manière que cet écrit ici que Dieu a agi pour faire comprendre que Christ, son Fils, était la révélation et que c'est Christ qui devait être révélé à travers ses écrits. Nous avons un exemple de cela, et je ne vais pas citer beaucoup ici, mais dans Exode chapitre 3, comment est-ce que Dieu s'est révélé à Moïse? Ici, nous voyons que c'était à travers un buisson ardent. Lorsque Moïse faisait paître le troupeau, Exode chapitre 3, le verset 1 de Jéthro, son beau-père. Alors, il mena, c'est écrit le verset 1 d'Exode 3, le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Donc voilà un exemple ici d'une manière que Dieu s'est révélé à Moïse. Nous ne lisons pas ailleurs qu'il s'est révélé à d'autres prophètes de cette manière, mais c'est de cette manière qu'il s'est révélé à Moïse. Alors Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel dit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appelait au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel je te tiens est une terre sainte. Pourquoi une terre sainte? Parce que Dieu y était. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Alors voilà une de ces manières que Dieu s'est révélé. Mais quand c'est écrit de plusieurs manières ou bien à plusieurs reprises, cela parle de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas qu'un seul, que tous les prophètes de l'Ancien Testament à travers lesquels Dieu s'est révélé, c'était pour ce but que nous voyons cité surtout dans le verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Cela ne veut pas dire que ce qu'il a révélé aux prophètes ne concernait pas le Fils, mais maintenant, dans ces derniers temps, après avoir parlé à travers les prophètes de différentes manières et façons, maintenant, celui dont ces prophètes annonçaient est venu. C'est pourquoi c'est écrit ici, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On peut dire dans ces derniers jours, il y a beaucoup qui demandent, mais est-ce que nous vivons les derniers jours? C'est évident. Après cette longue période de temps, maintenant, Christ est venu, comme Paul lui-même a indiqué dans Galates chapitre 4 et le verset 4, lorsque le temps fut accompli. C'est le temps, c'est Dieu qui a créé le temps. Et depuis la création jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui dirige le temps. Mais dans Galates 4, verset 4, c'est écrit, lorsque les temps ont été accomplis, tout ce temps qui a passé et que Dieu a donné ses promesses et prophéties, et à parler à travers les prophètes concernant le Fils qui devait venir. Voilà, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Voilà le thème, voilà le message même de cette épître aux Hébreux. ces Juifs qui avaient les Écritures, et à travers ces Écritures, Dieu, par sa grâce, a déjà attiré à Christ. L'écrivain, maintenant, écrit pour les encourager davantage que rien n'a changé. Et que dans ces derniers temps, c'est-à-dire que lorsque Christ est venu au début du premier siècle, cela a inauguré les derniers temps. Nous vivons dans les derniers temps depuis sa venue. Regardons, par exemple, dans Hébreux chapitre 9, la manière que l'auteur décrit cela, encore sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans Hébreux chapitre 9 et le verset 26, nous pouvons commencer là peut-être, en parlant de la venue de Christ et la manière que Christ a donné sa vie une fois pour toutes. Ce n'était pas comme auparavant, où les sacrifices devaient être répétés. Commençons dans le verset 25, Hébreux 9. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, voilà la partie que je voulais souligner. Notez bien, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc nous ne devons pas nous poser, mais quand est-ce que nous allons entrer dans les derniers temps, ou bien est-ce que nous vivons les derniers jours? Oui, la réponse est que nous vivons ces derniers temps depuis la venue du Christ dans ce monde. D'ailleurs, même l'apôtre Jean, dans son épître, dans 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2, et le verset 18, notons ce qu'il dit ici. Petits enfants, il ne dit pas simplement que nous vivons les derniers jours, mais il dit ici, dans le verset 18, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et cela depuis le premier siècle. Les gens aujourd'hui cherchent à savoir, mais qui est l'antéchrist? Jean dit déjà plusieurs antéchrists sont dans le monde. Qui est l'antéchrist si ce n'est pas ceux qui s'opposent? C'est dans la religion. Et c'est partout. C'est cet esprit qui domine le monde, qui s'oppose à un message qui donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a plusieurs organisations qui se disent chrétiennes, mais qui sont opposées au Christ tel qu'il est révélé ici dans la Bible, comme souverain. Pour eux, Jésus est venu pour tenter de sauver, mais hélas, les gens continuent dans leur incrédulité. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Le Christ de la Bible est souverain et qu'il a donné sa vie afin de satisfaire à la loi de Dieu, la justice de Dieu, pour que Dieu soit juste tout en justifiant chacun pour qui Christ est mort. Il ne perdra aucun de ce que le Père lui a donné. Mais je dois dire, ça, ce n'est pas le Christ qui est prêché. Nous entendons d'un Jésus qui a versé son sang, mais hélas, les gens ne veulent pas croire, donc par fini, Dieu doit les condamner. Je suis heureux de pouvoir annoncer qu'il n'y a aucun à l'enfer pour qui Christ est mort. Mais tous ceux qui s'opposent à un tel Christ et à la prédication d'un tel Christ souverain qui a entre ses mains toute chair, mais qui donne la vie éternelle seulement à ceux que le Père lui a donné, ceux qui s'opposent sont antéchrist. Voilà l'esprit qui est dans le cœur et ça reste jusqu'à ce que l'Esprit lui-même enlève cette voile et de tels pécheurs, ils étaient choisis depuis l'éternité et Christ est déjà mort pour eux, mais il faut que le temps vienne maintenant où leurs yeux sont ouverts et qu'ils voient Christ tel qu'il est dans toute sa vérité. Donc, nous vivons un temps d'antéchrist, mais c'est évident en ce que Jean dit que ce n'est pas seulement le dernier temps, mais c'est la dernière heure. Et chaque jour qui passe, nous ne savons pas combien de temps cette période va continuer ces derniers temps, mais je sais que qu'à la fin, Christ reviendra. Et tout ce qui concerne ce monde sera complètement détruit. Et ceux que Christ est venu racheter, ils seront pour éternité auprès de lui. Donc, revenant dans mon texte ici, voilà pourquoi cette épître est importante, parce que ça nous montre le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Pour moi, c'est une épître qui est nécessaire de comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre cet écrit aux Hébreux sans comprendre l'Ancien Testament. Et lorsque nous allons étudier ici à travers le temps, les références qui sont tirées de l'Ancien Testament sont nombreuses. Hébreux est un livre profondément enraciné dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, dans nos prédications, il nous faut la Bible entière et que nous devons habituer à nos auditeurs à se référer non seulement au Nouveau Testament, mais à l'Ancien Testament, parce que c'est le même message, c'est Christ. Il faut se rappeler que les apôtres, en prêchant, quand c'est écrit qu'ils sortaient pour prêcher les Écritures, qu'est-ce qu'ils avaient à cette époque? Ils n'avaient que l'Ancien Testament. Mais c'est de l'Ancien Testament qu'ils prêchaient Christ. Si vous prenez le temps de faire une comparaison, l'Épître aux Hébreux a plus de 29 citations et 53 allusions à l'Ancien Testament pour un total de 82 références. Donc, de manière significative, les Hébreux qui sont adressés ici, c'est à partir de l'Ancien Testament qu'ils connaissaient très bien que maintenant, l'écrivain aux Hébreux, je répète souvent l'écrivain parce que l'auteur, nous savons que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais ça concerne Christ. Alors, la structure de cette épître est tantôt comme un sermon, mais aussi une épître pour l'encouragement de ceux qui lisaient. Dans le chapitre 2, alors, revenant là, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Voilà ce qui importe. C'est qu'à travers cette épître, le Seigneur nous conduit à comprendre davantage la supériorité du Seigneur Jésus. Vous savez que les Juifs avaient, dans leur croyance, ils donnaient une importance à Moïse. Et même lorsque nous allons lire un peu plus loin ici, d'autres intermédiaires comme des anges. C'est comme aujourd'hui dans les religions, les gens, même ceux qu'ils appellent saints, par qui il faut passer, ou bien Marie. Mais tout cela sont des inventions des hommes et démontrent leur aveuglement. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le fondement de tout. Et c'est lui qui est celui que nous devons connaître à travers les écrits de ces prophètes que le Seigneur utilisait. Si vous regardez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 7 à 12, parce que Il y en a qui pensent que non, le Nouveau Testament, ça c'est ce qui décrit l'Évangile, mais l'Ancien Testament, ça concernait la loi. Il y en a qui vont jusqu'au point de dire que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Ils disent que c'est au jour de Pentecôte que l'Esprit a été donné, mais ceux qui étaient auparavant n'avaient pas l'Esprit de Christ en eux. Mais je dois dire que selon la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il ne peut pas connaître Christ. Et si ces prophètes n'avaient pas l'Esprit de Christ en eux, donc comment est-ce qu'ils pouvaient annoncer le Christ? C'est Pierre, dans son épître, qui dit autrement, dit le contraire, 1 Pierre chapitre 1, et on peut commencer dans le verset 10, c'est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en parlant de nous aujourd'hui, mais ils annonçaient cette grâce. Il y en a aussi qui disent qu'il n'y a pas de grâce dans l'Ancien Testament, c'est seulement la loi, mais ces prophètes annonçaient la grâce. Il faut savoir, c'est pourquoi Dieu a donné les sacrifices et les sacrificateurs comme image de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et que le pardon devait être accompli, la justification des pécheurs devait être accomplie à travers un sacrifice plus que ces sacrifices des animaux. Parce que nous savons que les sacrifices des animaux ne peuvent pas ôter le péché. Mais il fallait que Christ vienne comme un homme et qu'il donne sa vie, qu'il verse son sang pour les hommes et les femmes que Dieu lui-même a choisis. Voilà un véritable représentant. Donc toute leur prophétie, tout ce qu'ils écrivaient avait en vue cette grâce. Comme c'est écrit ici, ils ont qui vous était réservé. Ce n'est pas disant là qu'ils n'avaient pas de grâce, mais cette grâce dont ils disaient était une grâce à venir dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Même Christ a dit d'Abraham, il a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais ici, c'est écrit qu'ils ont fait de ce salut. Alors ces prophètes que nous sommes en train de lire ici, à travers qui Dieu s'est révélé de différentes manières dans les premiers temps, maintenant, c'est écrit, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Imaginons que ces prophètes, en écrivant, lorsque Dieu s'est révélé en eux, ils ont fait de ça leur recherche pour comprendre davantage comment cela s'appliquait au Seigneur Jésus. Et notez verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées. Notez bien, par l'Esprit de Christ qui était en eux. Il ne faut pas dire que l'Esprit de Christ n'était pas en eux. La Bible dit, le contraire, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et c'est écrit, il leur fut révélé. Voilà, c'est la révélation de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est révélé? C'est à travers ces prophètes, par l'Esprit de Christ en eux, et à travers les Écritures que nous avons maintenant dans cette Bible, il leur fut révélé ce qui n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. C'est-à-dire, la venue de Christ ne devait pas s'accomplir dans leur temps. C'était un temps précis, comme nous avons vu dans Galates chapitre 4, verset 4. Pour vous, qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, même Esprit qui était en eux. Maintenant, c'est cet Esprit qui anime ceux qui prêchent l'Évangile, les apôtres. Et puis, nous aujourd'hui, que le Seigneur a suscité Nous annonçons le même message de ces prophètes par l'Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges même désirent plonger leur regard. Les anges doivent être étonnés du fait que Dieu n'a pas pour but du salut pour les anges déchus, ceux qui ont chuté avant la création du monde, que Dieu a rejeté, et surtout principalement Satan lui-même, Lucifer, et les anges qui l'ont suivi. Il n'y a pas de rédemption pour ces anges-là. Donc les anges que Dieu a réservés aussi par sa puissance, qui n'ont pas chuté et qui servent Dieu nuit et jour et qui ne cessent de crier « Saint, 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 l'Éternel », ces anges-là jettent un regard sur la manière qu'il a plu à Dieu de sauver des pécheurs tels que nous sommes, mais sauvés par sa grâce. Alors, voilà une petite introduction de cette épître importante. C'est écrit dans le verset 2, « Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Voilà la révélation du Christ à travers son Fils. Non plus maintenant sous forme de prophétie ou bien de promesse, parce qu'il est venu. Toutes les prophéties sont accomplies maintenant en Christ. Toutes les promesses le concernant sont accomplies dans sa venue et dans sa vie et sa mort, où il est maintenant monté au ciel et où il vit là pour intercéder en faveur de ceux pour qui il a versé son sang. C'est ce Fils que nous allons maintenant considérer davantage la prochaine fois dans le verset 3, mais qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Même comme au début, lorsque c'est écrit dans Genèse chapitre 1 et le verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce même par qui c'est écrit qu'il a créé le monde. Alors nous avons beaucoup à apprendre de Christ à travers cet épître. Et que le Seigneur nous encourage dans notre étude et que le nom de Christ soit glorifié en toutes choses. Amen.